Radio Créaum, les voix de l'éthique, pensez la pornographie. Bienvenue sur Radio Créaum, une radio Internet qui a pour mission d'interroger l'éthique sous toutes ses formes. Depuis l'avènement d'Internet, la pornographie est maintenant accessible au bout de quelques clics de souris, ce qui en inquiète plusieurs. Mais on peut se demander, face à cette inquiétude, en quoi la présence accrue de la pornographie est-elle condamnable? C'est à cette question que s'est penché Ruven Ogian, directeur de recherche au CNRS, dans un livre intitulé « Penser la pornographie », paru aux Presses universitaires de France dans la collection « Questions d'éthique » en 2003. Ruven Ogian était de passage à Montréal récemment et il a accepté de collaborer à cette première émission de Radio Créaum. Il a répondu aux questions de Pierre-Yves Néron, chercheur au Créaum, et de moi-même. Sans plus tarder donc, pensons la pornographie.
D'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. La première question, probablement la plus générale que je vous poserais, c'est est-ce que vous pourriez résumer en quelques mots votre position sur la pornographie?
Essentiellement, je me suis intéressé aux arguments qui étaient utilisés pour justifier le contrôle, la répression, sous quelque forme que ce soit, des représentations sexuelles explicites. Et les arguments sont de trois ordres. Il y a l'argument de la dégradation de l'image des femmes, l'argument de la protection de la jeunesse et l'argument des violences sexuelles, que l'exposition à la pornographie ou je dirais plutôt représentation sexuelle explicite, la question de savoir si pornographie est la meilleure façon de la qualifier, nous y reviendrons, je suppose. Et donc j'ai essayé de montrer que ces arguments étaient fallacieux en général. Donc j'ai une position qui est plutôt négative, il ne s'agit pas à proprement parler d'une défense de la pornographie, mais une tentative simplement d'évaluer les arguments qui sont utilisés dans le débat public contre la pornographie.
Thank you.
dans l'ensemble des représentations sexuelles explicites, les mauvaises seront dites pornographiques. Mm-hmm. C'est pas, enfin, si vous voulez, le processus de qualification part pas à l'inverse. C'est pas parce que c'est pornographique, qui est une qualification très vague, qu'on les réprime, mais dans l'ensemble des représentations sexuelles, donc les mauvaises, pour différentes raisons, ou bien comme parce qu'elles présentent une image dégradée des femmes, parce qu'elles sont... elles objectifient, bon, c'est les arguments qu'on utilise, elles réifient, etc., seront dites pornographiques. Ce sont des critères négatifs. Donc l'idée qu'on pourrait avoir une bonne pornographie, par exemple, semble... contradictoire.
Contradictoire aux yeux de plusieurs.
Oui, parce que le terme même signifie, dans l'ensemble des représentations sexuelles, celles qui seront jugées mauvaises.
Mauvaises, oui.
Pour différents critères. Voilà.
Est-ce que vous pouvez expliciter cette notion assez importante dans votre bouquin, Penser la pornographie, d'éthique minimale?
Ce que je pourrais dire à ce propos, c'est qu'il existe une longue tradition en philosophie morale dans laquelle ce qui peut être jugé moral ou immoral, c'est le genre de vie qu'on mène, le genre de personne qu'on est, indépendamment même du rapport à autrui. Et puis, pour différentes raisons dans lesquelles il n'était pas nécessaire de rentrer, une conception de la philosophie morale s'est développée, dans laquelle cette question n'était plus la question centrale, mais celle qui devenait centrale, c'était celle de la coexistence des libertés individuelles, du rapport à autrui. Et donc cette façon de renoncer à la question de savoir qu'est-ce qu'une vie bonne pour soi, qu'est-ce qu'une vie réussie, est l'élément principal de cette éthique minimale. C'est une sorte d'attitude de neutralité à l'égard des conceptions du bien personnel. Évidemment, elle doit avoir un écho chez ces gens dans les débats publics, tout simplement parce qu'il semble qu'elle corresponde à ce souci de tolérance à l'égard des différentes façons de vivre, du moment qu'elle ne cause aucun tort à autrui. Et là, nous avons le deuxième élément, si vous voulez. Il y a le premier, c'est l'élément de la neutralité à l'égard des conceptions du bien personnel, qui semble impliquer le deuxième élément qui est le harm principle, c'est-à-dire qu'au fond, les interventions publiques ou d'ailleurs non publiques sont justifiées par les torts causés à autrui. Et en revanche, les torts qu'on se cause à soi-même peuvent être qualifiés de différentes façons. Ça peut être des choses qui sont très mauvaises psychologiquement, je ne sais pas, se couper un bras, etc. Bon signe, mais ce n'est pas immoral, si vous voulez. Alors ça, c'est très très difficile à faire comprendre que le harm principle fait une différence entre causer des torts à autrui et causer des torts à soi-même, sans que cela implique que se causer des torts à soi-même soit quelque chose qui soit positif ou indifférent. En tout cas, du point de vue moral, la valeur des deux n'est pas la même. On pourrait même dire que les torts que nous causons à soi-même n'ont pas de valeur morale, même s'ils en ont... à toutes sortes d'autres points de vue. Là, on a comme deux éléments qui sont négatifs, donc neutre oui. À l'égard des conceptions du bien personnel, et puis l'autre principe d'intervention limitée aux torts causés à autrui. Et on pourrait dire que ça fait pas une morale, une éthique minimale, mais une éthique zéro plus ou
moins. Négative.
Donc je pense qu'il s'assortit généralement d'un principe qui est une sorte de je dirais un principe qui définit le domaine dans lequel les deux autres s'exercent, qui est le domaine moral. Mm-hmm. Et celui-là, il faut bien le caractériser d'une certaine façon. On peut le caractériser en termes d'impartialité, en termes de bien. Il m'a semblé que ce qui au moins était commun à l'ensemble de nos théories morales, c'était le principe d'égale considération de la voix et des intérêts de chacun. C'est un principe d'égalité en droit, mm-hmm. le plus général possible, hein, sans entrer dans les détails de justice et de son fonctionnement. Donc là, l'éthique minimale est d'abord caractérisée par la neutralité à l'égard des conceptions du bien, l'intervention limitée au tort causé à autrui. Ce sont deux principes qui, d'une certaine façon, nous éloignent beaucoup des morales traditionnelles, antiques, etc., qui insistaient axait beaucoup sur le bonheur personnel, sur ce qu'on fait de soi-même. Et puis le troisième principe, alors je pense qu'on pourrait le retrouver évidemment déjà chez les stoïciens, mais je préfère ne pas rentrer dans des problèmes d'histoire ou d'exégèse, mais il me semble que c'est une sorte de principe de détermination du domaine dans lequel tous les autres doivent être compris, et c'est celui, disons, de l'impartialité, de l'égale considération de chacun. Donc, sur chacun des points, évidemment, on peut faire des objections. Est-ce que l'éthique peut se définir en termes d'impartialité ? Est-ce que le respect de soi-même, par exemple, n'est pas un élément important ? Est-ce que l'épanouissement de soi, le bien, ne sont pas des conceptions ? Et donc, il s'agit vraiment d'une prise de position par rapport à l'ensemble des autres conceptions en philosophie morale. En général, quand on aborde un problème d'éthique appliqué, si on peut l'appeler ainsi, comme la pornographie, mais ça pourrait être la même chose pour le clonage, on le fait généralement en utilisant des principes de raisonnement moraux extrêmement généraux, comme essayer de traiter les cas similaires de façon similaire, ou essayer d'éviter, dans la mesure du possible, des arguments dits de la pente savonneuse, c'est-à-dire de toujours extrapoler à partir d'un cas vers le pire. Donc, il faut se dire, bon, quel genre de principe avons-nous nous déterminer par rapport à cet ensemble de faits. Et là, il est évident que si on se place du point de vue de certaines positions conservatrices, il est difficile d'accepter des formes de les formes de sexualité telles qu'elles sont représentées à l'écran, mais pas simplement ça. Bon, évidemment, ça pose un problème, parce que ce qu'on voit dans les films pornographiques, c'est rarement une existence conjugale stable, une vie de famille honnête, etc. Bon, c'est pas exactement, mais enfin, disons que même un conservateur pourrait penser que on présente bien des films de guerre, des films d'horreur, c'est pas pour ça qu'on les approuve, etc. Donc on pourrait se dire que ce n'est pas le fait que la sexualité qui est représentée à l'écran n'est pas celle qu'on souhaite qui serait un argument suffisant. C'est plutôt l'intervention de ces images dans la conception qu'on se fait du rapport sexuel et dans l'effectuation du rapport sexuel. C'est à ces deux niveaux que les conservateurs semblent défendre une conception de perfectionnisme, dans le sens où ils ont une certaine idée de ce qui est bien pour l'épanouissement de l'homme en matière de sexualité, ce qui semble impliquer un rapport de réciprocité amoureuse où on ne se traite pas comme objet, et le meilleur cadre, enfin, dans lequel c'est réalisable, parce qu'il faut bien pour nous, faibles humains, avoir un cadre, c'est le mariage, une relation stable et amoureuse, en vue de la procréation, éventuellement, bon, tout ça.
L'amour, toujours le vieux discours, soit divin, soit humain, idem le baratin, jusque dans les WC, j'en peux plus par pitié, faudrait changer de disque. Entreprise à haut risque, les curés en chaleur, les idoles en pleurs, les mimés les plus louches, n'ont que ça à la bouche. À de grâce, arrêtez de vous badigeonner de cette pub idiote, j'en ai plein la culotte. L'amour, c'est du pipeau, c'est bon pour les gogos. L'amour, c'est du pipeau, c'est bon pour les gogos.
Donc Donc évidemment, si on a tous cette conception de la sexualité comme épanouissement humain, perfection, selon ces règles, il y a différentes raisons de considérer que la pornographie, non seulement parce qu'il est représenté, mais aussi par cette façon d'intervenir dans les rapports entre les personnes qui les regardent, n'est pas quelque chose qui puisse être approuvé. Maintenant, si on se place du point de vue des principes d'éthique minimale, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, donc celle qui me semble convenir pour nos sociétés pluralistes, démocratiques, dans lesquelles c'est la conception du bien que je viens de vous exposer est tout à fait légitime, discutable, mais enfin... dans mon cas particulier, ce n'est pas la mienne, ce n'est pas non plus celle qui est partagée par beaucoup d'autres personnes. Et la question est de savoir si elle doit, au point de vue politique, si on doit être neutre à son égard, et du point de vue moral, si elle est spécialement morale ou plus morale qu'une autre. C'est ça qu'intervient le concept de moralisme, c'est que choisir une conception morale de préférence à une autre, alors qu'on n'a pas de conception du perfectionnisme, une conception du bien personnel, c'est quelque chose qui est aussi exclu par le genre de principe dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc là, si vous voulez, là on a le plan du livre, d'une certaine façon. C'est-à-dire on a les principes de raisonnement généraux à l'aune desquels il faut évaluer les données que nous avons à propos de la pornographie, de son influence sur les comportements, etc. Et puis alors, on se dit aussi, est-ce que, par exemple, la pornographie cause un tort à autrui? Si elle en cause à soi-même, si on passe sa journée devant la télé à se masturber, bon, du moment qu'on ne cause pas de tort à autrui, mais qu'évidemment on ne veille peut-être pas à sa perfection. Alors selon les théories morales, qu'elles soient perfectionnistes ou pas, on pourra s'opposer. Et moi je ne le suis pas, donc je dirais que ça n'entre pas dans ce n'est pas une raison de désapprouver la pornographie. Est-ce que la pornographie représente une conception du bien personnel à laquelle il faut rester neutre? C'est une question qui peut se poser aussi. Oui. Est-ce que la pornographie risque de porter atteinte à l'égalité? C'est une question qu'il faut se poser. Alors donc le livre suit ces différentes questions. Ces principes d'éthique minimale ont été utilisés même par ceux qui les combattent dans le débat public. Ça a été le cas, j'en parle beaucoup des féministes, qui ont essayé de montrer que finalement la pornographie ne causait pas de tort personnel, qu'en tant que conception du bien sexuel, après tout, elle n'était pas ni mauvaise ni pire qu'une autre, mais elle violait des principes de justice, d'égalité entre les hommes et les femmes. Donc,
vous insistez beaucoup sur le changement de justification dans le discours public
je croyais qu'en une formule, on pourrait dire qu'on est passé d'une justification de la répression au nom du bien à une justification de la répression au nom du juste. I was inside. I might have been undignified. And that is maybe why you cry. I don't know. Maybe so. But what's the difference now? Les arguments, lorsque les féministes américaines, du moins celles qui sont représentées par Catherine McKinnon et Andrea Dworkin, ont essayé de mettre au point cette loi qui devait permettre à des personnes particulières qui se sentaient offensées par le spectacle, la pornographie, de porter plainte et d'entamer une procédure, ou des associations qui le représentent, parce que c'était aux civils qu'on faisait ça. Et bien alors, la loi qui était censée le justifier, c'était une loi qui ne s'appuyait pas sur le premier amendement de la Constitution américaine, qui est supposé défendre la liberté d'expression, mais sur le 14e, qui est supposé défendre l'égalité de tous devant la loi. Et ça, c'est une chose très très importante. Alors, les féministes, au début, lorsqu'elles ont été un peu piégées par leurs arguments, elles ont essayé de dire que finalement la pornographie avait un contenu politique, et que son contenu politique c'était d'abaisser les femmes, de faire en sorte que leur voix ait moins d'importance que celle des hommes, parce qu'elles sont ridiculisées dans ces films, elles sont là pour servir les besoins sexuels des hommes, c'est une sorte de propagande pour l'inégalité, les films pornographiques. À quoi un juge a répondu? Eh bien, alors, si c'est une opinion, dans ce cas-là, elle est protégée par le premier amendement. Et donc, c'était la première fois qu'une loi réprimant l'importation de matériel pornographique et la diffusion de matériel pornographique était fait était passé au nom de tort causé aux femmes. Ouais. Bon, donc alors après j'essaie d'expliquer tous les paradoxes dans lesquels, oui. Enfin bon, c'est une autre histoire dans lesquels c'est différents ouvrages dont ceux d'écrivains comme Marguerite Duras ou Dorothy Allison ont été saisis aux frontières par des douaniers un peu trop zélés. Alors, ce que ça prouve, c'est qu'une autre chose, mais ça, je dirais que c'est une partie politique de mon livre, peut-être plus que la partie de réflexion en philosophie morale, c'est que quelles que soient les raisons pour lesquelles la pornographie est réprimée, elle l'est en général ou sévèrement contrôlée, c'est que ses effets sont souvent négatifs sur souvent les personnes qui sont à l'origine de ces mouvements, sont souvent les minorités sexuelles ou les femmes qui ensuite souffrent le plus de la répression, pour une raison assez simple, c'est que un des éléments des revendications de ces minorités, ou même des revendications telles qu'elles étaient exprimées par le mouvement féministe, c'était aussi une certaine reconnaissance des désirs féminin, certaines reconnaissances de leur corps, enfin, ouais. Sous la qualification de l'identité, etc. Et donc, toute une partie de la littérature dite féministe est une littérature qui est très crue, mm-hmm. du point de vue sexuel. Pensez à Cathy Lacker, d'autres, enfin, qui ne se prétendraient pas féministes d'ailleurs. Mais enfin, bon, c'est une littérature qui met en avant tout ça. Mm-hmm. C'est la place aussi qu'occupe les représentations sexuelles explicites, mm-hmm. dans la découverte. Et la désinhibition de la sexualité gay est importante aussi. Et puis, dans l'art en général, ouais. la place qu'occupe la sexualité est importante. Donc, il ne faut pas oublier, enfin, c'est le cas en France, que les associations qui poursuivent la diffusion de la pornographie, en fait, combattent aussi. C'est très paradoxal, mais ça, c'est le cas, combattent le modernisme en art, ouais. Combattent les droits des minorités sexuelles et sont en général pas les associations les plus proches des féministes. Ouais. Alors que c'est eux qui sont à l'origine, enfin les féministes qui l'ont été, des mouvements contre la pornographie. En ce qui concerne le caractère hypocrite et fallacieux de cet argument pour les... si vous voulez, la dégradation de l'image des femmes. Je pense qu'il est très simple. Au fond, on l'a vu lorsque, il y a quelques mois de cela, en France, il était question qu'une chaîne gay occupe un des canaux nationaux. Et ils ont eu de grandes difficultés à faire admettre que c'était une partie de leur culture de présenter des films porno gays. Alors l'argument était que c'était impossible, mais là les femmes n'étaient pas impliquées dans l'image. Donc je sais que c'est un argument qui a l'air d'être un peu de rhétorique facile, mais je pense qu'il nous permet, si vous voulez, celui-là et d'autres, de dire mais qu'est-ce qui dérange finalement la pornographie, qui est le dernier chapitre de ce livre. C'est une fois qu'on a enlevé toutes ces couches, on s'aperçoit que c'est quand même la conception de la sexualité, et donc une certaine conception du bien sexuel. Et donc on vient au troisième élément de cette éthique minimale que je défends, c'est qu'au fond, derrière tout ça, ce qu'il y a, c'est une difficulté à rester neutre à l'égard des conceptions personnelles du bien sexuel. Ouais. Du moins, ça, c'est l'hypothèse que je fais à la fin. C'est une hypothèse mesurée, parce que là, je spécule beaucoup à cet endroit. Mais il me semble que l'exemple de la réaction au porno gay montre bien que ce n'est pas spécialement le problème de voir des femmes dégradées qui nous dérangent dans la pornographie. Je veux simplement souligner cette sorte d'incohérence que d'un côté, on a mis l'enfant au centre, on l'a mis au centre pour la sexualité, pour tout ce qui risque de subir du point de vue sexuel, en même temps que les conditions pour les enfants qui ne bénéficient pas de chance égale au départ de pouvoir surmonter ces handicaps sont menacés. Et de la même façon, en ce qui concerne les systèmes de répression pénale, en France, je ne sais pas ce qu'il en est ici, on va vers une aggravation des peines pour les enfants, des incarcérations de plus en plus précoces, des traitements qui commencent à rappeler ceux du 19e siècle pour les délinquants. Et donc, je ne sais pas, tout ça n'est pas un système qui est très cohérent. En tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que la seule chose qui semble préoccuper le bon public et ceux qui nous gouvernent, c'est qu'un string dépasse d'un pantalon ou des choses pareilles. Bon, bref,
ce que vous soulevez comme question, c'est au fond la question de l'urgence du problème de la pornographie ou de la sexualité en général. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine exagération quant au problème de la sexualité?
Je pense que... j'avais écrit un papier qui s'appelait « Trop petit pour le porno, assez grand pour la prison ».
Thank you.
qu'il y a dans les institutions d'État quelque chose qui, de toute façon, doit les inciter à s'occuper, si on veut, de la vie des citoyens, et pas simplement de la coexistence de leur liberté. Ce qui ne serait pas non plus impossible. Lorsque les lois à caractère paternaliste passent, en général, elles sont présentées non pas comme des interférences dans la vie personnelle des gens, mais comme des interventions dans des torts qui pourraient être causés à autrui. C'est le cas, par exemple, pour l'alcoolisme ou pour le port du casque. Alors, ce sera la sécurité sociale qui sera obligée de payer si quelqu'un est blessé, etc. Ouais. Donc, il y a quand même une conversion. C'est un peu comme avec les féministes. Il ne faut pas que, du point de vue du cadre d'idées dans lequel nous avons tendance à réfléchir, il serait difficile qu'une loi passe dans laquelle ce qui compterait, c'est le rapport à soi-même, pas le rapport à autrui. Ouais. Donc ça, si vous voulez, on aurait plutôt... Oui,
J'aimerais seulement intervenir, et il y a un fil conducteur depuis 15 ou 20 minutes qui me dérange, qui me préoccupe, c'est-à-dire lorsqu'on parle de neutralité, on a tendance à écarter, mais je ne sais pas si j'aimerais creuser cette question avec vous, on a tendance à écarter... toutes sortes de comportements qui est le rapport à soi qui est en quelque sorte médié par le rapport à l'autre. C'est-à-dire le regard de l'autre sur soi-même forme un peu quelque part notre rapport à nous-mêmes et est un élément dans la formation de l'identité. Et lorsqu'on demande à l'État d'intervenir, ou en tout cas au droit, aux politiques d'intervenir dans ce domaine, c'est parce qu'il y a quelque part comme un effet d'entraînement de comportements majoritaires, etc., et qui finissent par engendrer un mépris de soi, de minorité. Je ne sais pas si vous voyez l'argument que je fais. En fait, c'est l'idée de l'objectivation du corps dans la pornographie. Il me semble qu'elle se rattache un peu à ce mépris de soi que l'on voit reflété dans la pornographie et qu'on tente quelque part de faire intervenir l'État ici d'une manière qui me paraît assez légitime, là, c'est-à-dire... la référence au 14e amendement des États-Unis, de l'égalité des individus et des groupes aussi, parce que les groupes, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils sont ostracisés en tant que groupe. Donc, je me demande ici, qu'est-ce que vous avez à dire sur l'objectivation du corps? Je sais que Pierre-Yves avait posé cette question-là plus tard, mais là, il y avait trop de fil conducteur qui me menait celle-ci pour ne pas l'éviter.
Bon, tout d'abord, je voudrais commencer par l'argument dit du 14e amendement, qui est celui de la justice. Ce que je dis, c'est que, évidemment, ça serait une objection fatale à ma tolérance à l'égard de la pornographie s'il était avéré qu'elle avait comme conséquence l'inégalité, etc. J'aurais des raisons de la désapprouver au nom de l'éthique minimale. Ça doit être très clair. Donc cet argument doit être évalué avec le plus grand sérieux. Et c'est un grand pas que les féministes ont fait faire à la réflexion sur la pornographie. Ça, c'est très important. Elles ont sorti la question du bien personnel pour l'amener vers la question du juste. Voilà un grand acquis de leur lutte. Maintenant, cet argument lui-même doit être évalué. Alors, j'ai donné comme objection à cet argument le fait que c'était une minorité sexuelle et les femmes qui les premières souffraient de ces formes de répression, que les pays dans lesquels la pornographie est la plus réprimée sont pas les pays où les femmes vivent le mieux. Je dis pas qu'il suffit pas de commencer à projeter des films pornographiques pour que la liberté et la démocratie arrivent. Il n'y a pas de rapport causal, mais il y a certainement, si vous voulez, une sorte en tous les cas, il y a une corrélation entre les deux. Et puis on peut aussi trouver des mécanismes du rapport, c'est-à-dire moins de honte à exprimer des choses sexuelles, y compris les violences qui sont faites, une plus grande affirmation du désir, une gêne des hommes de voir qu'ils ne sont pas compétents, etc. Donc tout ça sont des choses qui ne jouent plutôt en faveur d'une... De, ça paraît peut-être bizarre et provocateur, mais enfin, je ne suis pas à l'origine de ces thèses dites pro-pornographie. Il y a des groupes féministes américains qui les défendent. Et donc, c'est plutôt des formes de... Elles apportent une certaine forme de justice plutôt que d'injustice. Alors, je sais que ça, c'est un argument sur lequel on m'a souvent repris, mais j'ai insisté sur le fait que c'était une situation exceptionnelle en ce qui concernait les victimes de ce qui était supposé être une injustice, où la moitié de ces victimes étaient pour ce qui était supposé la causer, et l'autre moitié contre. Il y a une sorte de guerre civile, ce qui n'est pas le cas, comme je dis, pour les Noirs ou les Juifs. Il n'y a pas de Juifs qui disent « Ah, mais la discrimination serait bonne », ou les Noirs disent « C'est très bien, l'apartheid, tout ça. Bon, » Il n'y a pas ce genre de division. Mais c'est pas ça, juste une, comment dire, un déclencheur empirique de la réflexion. Je dis pas que ce soit une preuve. Mais parce que la seule façon qu'ont les féministes donc anti-porno de contrer l'argument, c'est de dire qu'elles sont manipulées, aliénées, etc. Mais ça, il faut le prouver, etc. Alors là, j'en viens donc à cette question de l'objectification, du rapport à soi, du fait qu'il faut quand même que le mépris de soi qui est engendré par les images sont au fond une façon de ou bien de causer ou bien de soutenir de l'injustice. C'est en effet exactement l'argument qui était utilisé par... il faut le prendre au sérieux, c'est tout, et voir si c'est vrai que c'est le cas. Dans le cas de la pornographie, je crois que c'est très très exagéré. Je pense au contraire, il y a des arguments qui montrent qu'il y a une réaffirmation de soi-même. Il est évident que certains de ces aspects, je ne vais pas faire la division, il y a du bon et du mauvais porno, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que les possibilités sont un peu plus larges, s'il y a moins de répression, ce qui est, je ne sais pas, en France, c'est la pornographie, le seul genre qui est réprimé par une taxation qui fait qu'ils ne peuvent pas passer dans les salles les salles ordinaires, donc c'est un régime unique de répression, et c'est un régime de répression a priori, pas a posteriori. C'est pas des gens qui se plaignent en disant j'ai vu, il n'y a que des cinémas porno sur les Champs-Élysées, etc. On peut plus, mais c'est vraiment a priori, même avant de savoir, peut-être que les gens s'en fichent après tout qu'il y ait des films porno. Donc ça, c'est... Et donc là je pense qu'il faut... Si c'est un peu plus ouvert aussi, on pourra envisager la possibilité, par exemple, que les femmes fassent des films porno sans être stigmatisées, ce qui est le cas en France, Catherine Breillat, par exemple, Vidi. Et donc là, j'ai l'impression de façon conséquentialiste que la meilleure stratégie à adopter dans ces cas-là, j'aurais plutôt tendance, mais ça, je sais aussi que c'est quelque chose qui ne plaît pas trop à ceux avec qui je discute, à être plus libre. Comme en général pour l'art, je ne suis pas trop pour disons, les systèmes d'organisation économique, parce que ça pose des problèmes dans la production. Ça peut en poser aussi pour la production pornographique, puisqu'après tout, c'est une production. Donc il faudrait qu'elle soit soumise à un régime commun, disons, de droit syndical, etc. Alors, on avait parlé de tous les problèmes que ça posait. Il faudrait qu'elle soit mieux payée, mais une activité sexuelle mieux payée, est-ce que ce n'est pas une forme de prostitution? Tout ça rend des questions très très complexes. Mais en tous les cas, je crois que là, j'opterais plutôt, par rapport à votre question, pour un régime de plus grande liberté dans lequel plus d'auteurs auraient les moyens d'exprimer autre chose que ce qu'on voit. Voilà. Je ne pense pas qu'un régime qui permet, comme aujourd'hui d'ailleurs, c'est le cas, à ce que finalement ce soit toutes les représentations sexuelles explicites sont évidemment font l'objet d'un monopole d'un certain genre, etc. Peut-être que c'est pas une très bonne chose.
Some of them wanna get used by you. Some of them wanna...
quelque chose qui m'apparaît important de noter, c'est qu'il existe maintenant une défense féministe de la pornographie et même de sa promotion, en quelque sorte, l'idée selon laquelle, en bout de ligne, la pornographie pourrait même être quelque chose comme un outil
de libération,
pour les féministes.
Ouais. Leurs arguments, dont je les ai déjà évoqués, c'est que, d'une part, tout ce qui, d'une certaine façon, rend la sexualité publique, ouverte... Donc, c'est l'idée, en gros, c'est que l'affirmation du désir féminin est déjà une chose qui ne va pas de soi, et que, contrairement à ce qu'on dit sur la production pornographique moyenne, d'ailleurs, comme d'habitude à propos de ces productions, ce qui touche à la sexualité, c'est la cohérence qui règne. Ou bien elles ne sont que des objets passifs, ou ce sont plutôt des femmes avides. Mais dans les deux cas, elles sont objets. On ne sait pas pourquoi dans les deux cas elles sont objets. Dans un cas, elles ont l'air super sujets. Dans l'autre, mais enfin, bon, donc il y a évidemment, la nature de l'impact que ça a sur la compréhension, sur dans quelle mesure c'est un modèle de comportement, tout ça pose des questions très très complexes qu'il faut aussi ne pas toujours analyser hâtivement en disant que les gens font ce qu'ils voient, etc. Bon, ça, c'est... Parfois, heureusement, ils ne le font pas, surtout s'ils voient des films nazis, ou des... enfin, qui mettent en scène des... Les nazis savent choisir. Si je choisissais toujours le bad guy comme modèle, ça serait un peu bizarre aussi. Les films violents, évidemment, mettent en scène des choses qui ne sont pas toujours imitées, bon, parfois. Donc là, ça poserait une question. Mais en tous les cas, du point de vue de ce qui est présenté, de ce qu'on veut présenter, il y a certainement... une sorte de... c'est difficile à trouver le mot exactement, je n'allais pas dire une liberté dans la présentation des activités sexuelles, mais en tous les cas, je pourrais presque dire qu'il y a de l'information sexuelle. Je sais que c'est comme on reproche beaucoup à la pornographie d'être aujourd'hui le seul instrument d'éducation sexuelle des jeunes et que c'est blâmé pour ça, je ne voudrais pas aller jusqu'à... Mais il y a quand même quelque chose que les gens peuvent savoir, apprendre... Et voir sur la sexualité, tout simplement parce que ce sont des choses qui, comme de nombreuses autres choses, les gens, par exemple, peuvent pratiquer en se disant qu'ils sont les seuls à le faire. Ça a été ce qu'on appelait l'effet Kinsey, au moment du... peut-être quelqu'un qui se masturbait croyait qu'il était le seul au monde, mais non, il y en a d'autres qui font ça. Et donc là, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire, si vous voulez, tous ces... cette masse d'informations, qu'elle soit d'ailleurs sociologique, psychologique, elle a comme effet de sortir les gens du sentiment que ce qu'ils font est tout à fait étrange, minoritaire, pervers, bizarre. Donc ça, c'est probablement quelque chose qui a une importance, du moins que les féministes pro-sexe, comme on les appelle, mettent en avant. Et puis, il y a ce que je vous disais tout à l'heure à propos du fait que c'était quelque chose qui faisait partie du combat des femmes, qu'on parle plus de son corps, qu'on parle plus de soi-même, de sa sexualité. Donc je crois que c'est un élément. Et puis l'autre aussi, c'est un élément que j'ai évoqué, c'est que tout simplement, sans que la diffusion de pornographie soit une cause de la liberté, d'une certaine façon, une diminution du contrôle social sur la vie sexuelle qui s'exprime à la fois dans le fait que la pornographie soit diffusée, dans le fait que les femmes aspirent à plus d'égalité et au moins que leur désir sexuel soit reconnu, etc., ferait partie d'un ensemble qu'elles reconnaissent comme étant positif, même s'il y a une part de la production qui est répugnante. Ça, c'est un peu, si vous voulez, je crois que les féministes pro-sexe considèrent que le coût à payer pour un peu plus de liberté, c'est cette agression, peut-être. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo 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 doo.
Dernière question, si on veut attaquer d'une certaine manière votre argument à sa base, c'est-à-dire attaquer votre conception de l'éthique minimale qui est très importante dans votre argumentation, est-ce qu'on pourrait pas reprocher à cette éthique minimale de ne pas être assez exigeante, comme le font certains, je crois?
Oui. J'ai l'impression qu'elle est peut-être trop exigeante pour beaucoup de gens. C'est-à-dire, j'ai plutôt l'impression que c'est cette exigence de ne pas mettre son nez dans les affaires personnelles d'autrui est très très difficile à respecter, malheureusement. Mais je pense que là, ça dépend plutôt de la psychologie sociale que des engagements éthiques. Je ne sais pas pourquoi on a tellement envie de regarder ce que les autres font, s'en mêler, les juger, même s'ils ne font pas de tort à autrui. Ça. C'est notre histoire. À moi, alors qu'on ait une conception perfectionniste, on pense qu'il est de notre devoir de veiller à exploiter au plus les capacités que Dieu ou la nature nous a données. Que si, par exemple, on est capable d'être Mozart, c'est tout à fait idiot qu'on passe ses journées à écouter un Walkman sans travailler ou composer, que si on est un athlète, qu'il est absurde de devenir gras, allongé sur un canapé, etc. Bon, ça, c'est un peu le... Mais je pense qu'on peut avoir des arguments sans dire que c'est immoral de faire ça. C'est ça qui m'importe. Mm-hmm. On peut dire que c'est pas bien pour toi, ou d'un point de vue social, tu vas pas réussir, t'auras pas d'argent, je ne sais pas. Là aussi, il faut que j'ai toujours du mal à expliquer que ce sont des arguments qui portent sur la qualification morale de la chose, ou pas du tout sur le fait que, comme toute activité humaine, elle a des avantages et des inconvénients, et que dans le cas de ceux qui utilisent de façon sous-optimale leurs capacités, ça a des inconvénients du point de vue de la société dans laquelle on vit, tout simplement, en termes de bénéfices, etc. Mais on peut très bien dire que chacun peut faire ce choix. Si je peux être parfois agacé par cette sous-exploitation, je ne pense pas que la qualification d'immoralité soit appropriée.
Merci beaucoup.
Bon, merci beaucoup, à vous pour ces questions.
Une robe de cuir comme un fuseau, corps du chien sans le faire exprès.
C'était Ruven Ogian qui répondait aux questions de Pierre-Yves Néron, chercheur au CREUM, et de moi-même, votre humble serviteur, Martin Blanchard. Cette émission est produite par le Centre de recherche en éthique de l'Université de Montréal. Revenez nous voir sur notre site web au www.creum.umontréal.ca pour télécharger nos prochaines émissions. D'ici là, au revoir et à la prochaine.
C'est extra. C'est extra. C'est extra. C'est extra. Des cheveux qui tombent comme le soir et de la musique en bas des reins. Ce jazz qui jazz dans le noir et ce mal qui nous fait du bien. C'est extra. Ces mains qui jouent de l'arc-en-ciel sur la guitare de la vie. Et puis ces cris qui montent au ciel comme une cigarette qui brille. C'est extra. C'est extra. C'est extra. C'est extra. Ces bas qui tiennent au perché comme les cordes d'un violon. Et cette chair que vient troubler l'archer qui coule ma chanson. C'est extra. Et sous le voile à peine clos, cette touffe de noir Jésus qui ruisselle dans son berceau comme un nageur qu'on n'attend plus. C'est extra. C'est extra. C'est extra. C'est extra. Une robe de cuir comme un oubli qu'aurait du chien sans faire exprès. Et dedans, comme un matin gris, une fille qui tangue et qui se tait. C'est extra. Les maudits blouses qui s'en balancent, cet ampli qui ne veut plus rien dire. Et dans la musique du silence, une fille qui tangue et vient mourir. C'est extra. C'est extra. C'est extra.